Cette plénière, elle est intitulée « Mobilité, technologie et services pour des transports sobres ». Et pour débattre de ce thème, les organisateurs ont convié un certain nombre d'intervenants, un panel assez complémentaire. Et pendant que vous prenez place, eh bien, je vais appeler les intervenants à me rejoindre à cette tribune, en commençant par Jean-Bernard Kovarik. Jean-Bernard Kovarik, vous êtes ici le représentant du ministère. Vous êtes sous-directeur chargé des études et de la prospective à la DGITM, la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer. Installez-vous. Francis Bossir est professeur à l'Université Paris 1. Vous êtes géographe, Francis Bossir. Et puis, par rapport au Prédit, vous êtes président du groupe opérationnel mobilité dans les régions urbaines. Olivier Morel est également président d'un groupe opérationnel. C'est le groupe logistique et transport de marchandises. Et vous êtes à la direction industrie et transport d'IBM, monsieur Morel. Voilà, nous rejoignent également Laurent Briand. Laurent Briand est ici le représentant des professionnels des transports publics, puisqu'il représente l'UTP, l'Union des transports publics. Vous êtes directeur général de Cityway. Cityway, c'est une filiale de Veolia Transdev. Prenez place. Et puis j'appelle Thierry Sagnez, qui est délégué général de la CLCV, la Confédération Logement et Cadre de Vie. Vous représentez ici les usagers. Et puis Rémi Bastien, qui représente le monde de l'industrie et puis de la recherche industrielle, puisque vous êtes directeur de la recherche, des études avancées et des matériaux chez Renault. Voilà, je dois excuser certains des intervenants, et en particulier Jules Savary, qui est vice-président du Conseil général de Gironde, qui aurait dû être avec nous ce matin, qu'un événement familial empêche d'être là. Donc, une table ronde aussi qui n'est pas très paritaire, même si les organisateurs y avaient pensé au départ, puisque c'est Reine-Claude Madère qui devait représenter les usagers, et c'est le directeur général de la Confédération qui la remplace. Et donc, bien, nous allons, avec ces six intervenants, creuser notre sujet, mais on ne monopolisera pas la parole à cette tribune, on aura le débat avec vous. Donc pensez aussi aux interventions que vous souhaitez faire, aux questions que vous souhaitez poser, aux réactions aussi que ne manqueront pas de susciter les propos des uns et des autres. Je le disais, on est sur un thème mobilité, technologie et services pour des transports sobres. Mais si hier il y avait une plénière qui nous plaçait dans une échéance lointaine, puisque hier c'était 2050, là, on a choisi un horizon beaucoup plus proche, puisque ce matin, on se place par rapport à un horizon 2020. 2020, c'est dans moins de 10 ans. Et donc, on va réfléchir ensemble par rapport à cet horizon qui est assez proche, en faisant un focus sur deux points particuliers par rapport aux problématiques de mobilité de transport. D'une part, l'évolution des transports de marchandises, le fret. Et puis, par ailleurs, le transport de voyageurs, de personnes dans les zones peu denses. Alors, je vais peut-être me tourner d'abord vers le représentant du ministère, vers Jean-Bernard Kovarik, pour voir avec vous, par rapport à cet horizon 2020, quels sont les objectifs que nous assignent les pouvoirs publics, quel est un peu le cadre dans lequel travaillent tous les acteurs de la mobilité, puisque je le disais, 2020, c'est demain.
Oui, merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous prier de bien vouloir excuser Daniel Burceau, directeur général des infrastructures de transport et de la mer, qui aurait bien voulu être présent sur cette table, autour de cette table, mais qui n'a malheureusement pas pu se rendre disponible au dernier moment. Alors c'est vrai que quelle est la feuille de route que fixent un petit peu les pouvoirs publics à l'horizon 2020, comme ça a été rappelé. Je voudrais axer le propos sur deux textes un peu structurants à la matière. L'un, c'est tout ce qui est issu de la loi de programmation de mise en place du Grenelle de l'environnement, une loi qui a été promulguée en 2009. Et puis, plus récemment, je voudrais aussi faire référence au livre blanc transport qui a été dévoilé par la Commission européenne tout récemment, à la fin du mois de mars. Alors, sur les questions du Grenelle de l'environnement, un certain nombre d'objectifs, certains chiffrés et d'autres plus qualitatifs, ont été fixés par la représentation nationale. Je crois qu'un certain nombre d'entre nous les avons assez bien en tête. Donc, je voudrais simplement résumer les quelques éléments structurants. On vise bien sûr à réduire par la politique de transport les émissions de dioxyde de carbone dans le cadre de cette politique de lutte contre le changement climatique et de revenir en 2020 au niveau des émissions qui était celui de 1990. Et puis, on va y arriver par des actions sur l'efficacité carbone ou l'efficacité énergétique des véhicules, particulièrement les véhicules routiers. L'idée est de pouvoir faire passer les émissions moyennes du parc de véhicules à l'horizon de 2020 de 176 grammes par kilomètre, à l'heure actuelle, disons, jusqu'à 120 grammes de CO2 par kilomètre. Et puis, il y a une politique très axée sur l'offre de transport et de services de transport qui vise, par là même, à faciliter ce rééquilibrage modal. Plus de marchandises sur les modes massifiés, plus d'utilisation des transports en commun. Alors, création de milliers de kilomètres de lignes à grande vitesse, 2000 kilomètres doivent être lancés d'ici 2020. Une augmentation considérable de l'offre des transports en commun en site propre. Déjà, deux appels à projets ont permis de sélectionner un nombre très important de projets dans plusieurs villes de France. Et l'on vise donc, horizon 2020, 1800 km de lignes correspondantes. Sans compter des offres du type autoroute ferroviaire, autoroute Dol de la Mer, création du canal Seine-Nord-Europe, etc. L'idée, c'est aussi d'orienter la demande. Alors certes, nous sommes dans une politique de transport et qui est un petit peu une liberté fondamentale, la liberté d'aller et venir, qui s'accommode mal de la contrainte. Donc, comment faire en sorte que ces services de transport soient plus attractifs pour que, naturellement, la demande s'oriente vers ces modes massifiés et ces transports en commun. Alors, on va parler du déploiement de l'information sur l'état des réseaux, l'information logistique. C'est par exemple la création de l'Agence française de l'information multimodale et de la biétique, qui a été opérationnelle en 2010. C'est la mise en place d'une éco-redevance sur les poids lourds. C'est la création de zones d'action prioritaires pour l'air. C'est l'information qui va être communiquée aux bénéficiaires de prestations de transport sur la quantité de CO2 émise par les transports. Et tout ceci se conjugue avec les grandes orientations du livre blanc, issu donc récemment par la Commission européenne. Alors, on n'est pas tellement en 2020, plutôt en 2030. Mais peu importe. Réduction des émissions de CO2, report modal sur les marchandises, 30% du fret de distance supérieure à 300 km doit passer sur les modes massifiés, tripler l'offre de LGV, de lignes à grande vitesse, avoir des véhicules urbains moins polluants, divisés par deux les véhicules urbains avec une motorisation classique traditionnelle. Voilà. Tout ce que je voulais dire là, pour conclure ce premier propos, c'est que on s'est beaucoup focalisé sur des éléments un peu de contrainte. Mais une politique de transport, c'est avant tout une politique efficace pour le développement économique et social. Et il doit aussi mettre en œuvre une solidarité nationale pour la desserte et l'accessibilité des secteurs géographiques faiblement peuplés, ce qui renvoie vers les zones peu denses que vous évoquiez au début.
Merci. Alors, on va évoquer ces sujets dans la discussion. Vous le rappelez, il y a à la fois un cadre national, hein, c'est les lois d'application du Grenelle, avec des objectifs très ambitieux, et puis le cadre européen avec les directives transport. Maintenant, il y a la réalité telle que l'observent les experts. Il y a des évolutions. Et je vais me tourner vers Francis Beausire. Je le disais, vous êtes géographe, mais vous avez aussi une approche sociologique de l'évolution, donc des usages en matière de mobilité. Je rappelle que professeur à l'Université de Paris 1, vous présidez le groupe opérationnel du Prédit 4, mobilité dans les régions urbaines.
Oui, je vous remercie. Comme vous l'avez rappelé hier, 2050, c'est apparu probablement comme un peu lointain. Propos liminaire de ma part, je pense que 2020, c'est vraiment très proche. Du coup, le bon curseur, c'est peut-être demain. Je préférerais dire 2020-2030 pour les propos que je vais tenir.
Essayez d'être prêt en 2020 pour 2030.
Oui, parce que 8 ans, 7-8 ans, c'est vraiment très, très, très court pour le coup. Alors, moi, j'interprète le thème de cette séance comme une espèce de confrontation entre la technique et la société, d'une certaine façon. Et puis, effectivement, dans cette affaire, je vais représenter la société. Tout le monde s'intéresse à la société, mais bon. Alors, deux observations pas du tout techniques, du coup, qui partent de la société. La première, c'est que, me semble-t-il, dans les 10 à 20 ans qui viennent, c'est une grande transformation démographique qui nous attend. Je ne reparle pas de la transformation de la structure par âge de la population. Je pense que pratiquement tout le monde a intégré
le vieillissement,
ce phénomène, le vieillissement démographique et surtout sa vitesse très accélérée. Maintenant, on entre dans la période d'accélération majeure. L'autre transformation démographique, c'est au fond l'émergence d'une génération nouvelle. Donc en 2020-2030, les décideurs d'aujourd'hui, mais aussi les actifs, les ménages, enfin tous les gens qui font quelque chose, aujourd'hui, ils sont en fin de formation ou en début de leur formation, c'est leur période de début de l'expérimentation. Et en sémiologie, c'est leur façon de construire les systèmes de valeurs, je pense que la façon dont cette génération construit actuellement ses systèmes de valeurs ne repose pas sur les mêmes données que celles qui nous ont permis à nous de construire nos systèmes de valeurs. Et donc je pense que c'est une dimension absolument importante. Il n'y a pas que les techniques qui bougent, la société bouge aussi. Quelquefois, les techniques bougent plus vite et avec plus d'intensité que la société. Je pense qu'aujourd'hui, on est à des vitesses...
Qu'est-ce qu'on peut repérer dans ce système de valeurs des générations montantes, de ceux qui seront aux commandes dans 10 ans ?
Probablement une combinaison nouvelle et inédite de l'individualisme, qui a été la grande poussée des 30 à 50 dernières années, avec de nouvelles valeurs collectives, qui ne sont pas du tout les valeurs collectives héritées du 19e siècle et de la 3e République, finalement. Donc quelque chose d'assez nouveau, qui est difficile à observer, qui ne se voit pas vraiment, tant qu'on n'a pas atteint une sorte d'effet de seuil. Alors, je pense que là, c'est à ça que peut servir la recherche, c'est détecter des signes très faibles de cette évolution qui, de toute façon, va configurer les opinions de demain de façon différente.
Bon. Les opinions et des usages différents. Alors,
là, évidemment, les opinions et la façon de réagir, alors y compris la façon de réagir à ce que les institutions peuvent proposer. Donc, il n'y a pas seulement les techniques, il y a les techniques, les institutions et les gens. Voilà. Alors, ça, c'est le premier point, mais j'insiste pas, c'est un domaine compliqué. La deuxième question, c'est... Ça consiste pour moi à trouver que s'il y a beaucoup d'innovations, d'inventions techniques du côté de l'automobile, du côté des services qu'on peut offrir, il y a aussi la société en général, dans toute sa diversité, qui est productrice d'inventions. C'est-à-dire que considérer la société comme suiviste en toutes circonstances me paraît une grave erreur, surtout dans les périodes de transformation des systèmes de valeurs. Et je crois que...
Coproduction sociale, un peu.
Coproduction sociale spontanée. Alors, les institutions et les experts appellent ça des réseaux informels. Ils sont uniquement informels pour les gens qui les regardent de l'extérieur. Sinon, ils sont parfaitement formalisés. Ils sont formalisés, ils peuvent être très localisés, ils peuvent être spécialisés sur des thématiques tout à fait particulières, ils peuvent être éphémères, mais de toute façon, la réactivité de la société en général à la transformation des contraintes, c'est quelque chose qui produit de l'invention.
Par exemple, cette société qui invente des signes de temps à repérer.
Si on se place plutôt dans les territoires dits de basse densité, avec des guillemets pour englober tout un tas de situations, qui était une des préoccupations du groupe 3 du Prédit, on a des formes d'entraide, des productions de circuits courts, de prestations de services, des choses comme ça, qui sont apparemment invisibles. Des prestataires de services institutionnels ou des entreprises. On pourrait considérer des quantités de formes très banales de covoiturage, voire de prêts de voitures, voire de services rendus par des quantités de gens qui sont microscopiques, qui ne se voient pas. Tout ceci fait un fourmillement qui constitue le socle, finalement, d'une vie presque invisible. Moi qui fais des études de biogéographie et d'écologie végétale, je me rappelle du titre d'un livre qui était « La vie secrète et cachée des sols ». Ben, c'est un petit peu la même chose. Il y a, dans tous les territoires, il y a quelque chose qui se passe et qui permet de fonctionner au quotidien et de, effectivement, de réagir aux contraintes.
Et la nécessité pour les acteurs des politiques publiques de repérer ces pratiques et de repérer les bonnes pratiques aussi pour les généraliser, permettre d'arriver à maturité.
Oui, on arrive à quelque chose qui a été évoqué par Jean-Bernard Kovarik, c'est-à-dire une espèce de convergence d'association entre la production par des institutions ou des entreprises et puis la production par cette société civile qui ne s'affiche pas. En fait, une espèce de coproduction qui est une chose gagnante, finalement. Bon. Alors voilà, c'est ce que dirait un petit peu la géographie sociale, me semble-t-il.
Alors on y reviendra tout à l'heure, mais on voit comment les choses sont en train de se préparer, en train d'émerger. On continue ce tour de table avec Olivier Morel. Alors vous aussi, vous présidez un groupe opérationnel, et ce groupe opérationnel, c'est logistique et transport de marchandises. Alors là aussi, cette échéance 2020, comment elle se prépare? Est-ce que les choses bougent assez vite en France en particulier, M. Morel?
On peut essayer de répondre à la question. Mais je voulais d'abord remercier, disons, la séance introductive du Prédit d'avoir expliqué et fait comprendre au plus grand nombre l'importance du transport de marchandises. Et je crois que l'image qui restera, c'est d'avoir dire que si l'énergie, en particulier l'énergie pétrole devenait rare, il fallait laisser les camions plutôt que de les supprimer sur les routes. Je crois que c'est quand même une image forte et j'en remercie la séance introductive d'avoir dressé le décor.
Voilà qui est...
pour dresser le décor, il faut quand même savoir que la France se classe au 17e rang mondial en matière de logistique, alors qu'au niveau économique, elle est quand même dans le peloton de tête mondial. Donc on a quand même une idée du progrès à faire au niveau national pour recoller au meilleur. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'initiatives importantes. Je pense en particulier à ce qui est en train de se passer au niveau de l'axe Seine, essayer de regagner, si vous voulez, les parts qui ont été perdues au niveau du portuaire par rapport au port du Nord, Anvers et Rotterdam. Bon, en Méditerranée, le port de Marseille a aussi bien à faire pour regagner les parts de marché perdues par rapport à Barcelone et Gênes, sachant que des concurrents nouveaux apparaissent avec Tangemed, etc. Donc, si vous voulez, d'ici 2020, il y a une recherche d'un gain de compétitivité en matière de transport et de logistique. Donc, on est bien dans une dynamique de développement et d'amélioration de la performance. Mais cette amélioration de la performance, il faut la faire dans un contexte de respect de l'environnement.
Alors, Olivier Morel, vous employez tout de suite et à deux reprises déjà le mot logistique.
Oui.
Vous ne parlez pas d'infrastructure. Ça veut dire que la priorité, c'est vraiment d'innover sur la logistique.
Alors, je dirais un mot sur les infrastructures. Je dirais que ça a été aussi souligné hier. Si vous voulez, les politiques publiques dans les 20 ans qui viennent risquent d'être un petit peu plus... En dépit de la remarque très importante qui a été faite sur la construction de l'île Nouvelle et du canal Seine-Nord, il est clair qu'on va vers des périodes quand même assez difficiles en matière de déficit public et donc il y aura nécessairement une pesée, je pense, sur les infrastructures. Mais le message, c'est qu'à infrastructure équivalente, avec des moyens équivalents, c'est en faisant progresser le système de transport dans son ensemble. Si vous voulez, il ne faut pas raisonner le transport comme étant déconnecté, en quelque sorte décorrélé de la fonction logistique globale. Donc pour revenir, si vous voulez, à... un des débats et qui a animé les deux groupes qui ont eu lieu sur la logistique entre hier et aujourd'hui, c'est un petit peu la notion de rupture. Est-ce qu'on a la capacité d'amorcer une rupture dans ce secteur-là d'ici dans 10 ans? Alors on disait 10 ans, c'est demain, ça c'est vrai. Mais en 10 ans, beaucoup de choses changent. C'est-à-dire que les ruptures sont jamais finalement dans ce domaine-là des ruptures franches, c'est des ruptures progressives. Et comme le transport et la logistique non seulement fait appel à des technologies, en particulier des technologies de l'information, l'évolution des moteurs, on en parlera, l'évolution des systèmes automatiques pour les chargements et transbordements, l'amélioration du ferroviaire, etc. Il y a tout un ensemble de progrès techniques très significatifs, mais il y a surtout une ingéniosité, une capacité de créer en termes d'organisation et de services. Et l'organisation des services sont des choses qui vont se modeler effectivement sur la notion de signaux faibles qui a été bien signalée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et qui commencent à modifier en profondeur le contexte. Et en particulier, on sait tous qu'une des façons de faire une amélioration, une progression de la qualité de la logistique tout en étant plus économe en énergie, sont les éléments de la mutualisation. C'est massifié, mais aussi mutualisé. Parce que beaucoup de
Alors,
gens...
mutualisation, mais les acteurs ne oui. sont pas naturellement vertueux.
Tout à
Qu'est-ce
fait.
Qu'il va y avoir comme Alors, élément qui va activer la rupture
Ça a été l'objet de deux ateliers très suivis et très passionnants. On voit que des premiers résultats commencent à apparaître. Donc, il y a eu un progrès au niveau de la maturation. On sent aussi très bien que cette évolution va se faire... en quelque sorte tiré par le haut, c'est-à-dire les grands distributeurs vont jouer un rôle très important dans l'évolution des mentalités. On voit aussi que la mutualisation, ça ne concerne pas uniquement le fait de faire du ferroviaire. Moi, je connais bien le ferroviaire et malheureusement, on constate qu'il sera en retard par rapport à la feuille de route sur la partie marchandise. Donc là, il y a un vrai...
Clairement, les objectifs volontaristes des pouvoirs publics sont trop ambitieux
Non, ce n'est pas que les objectifs étaient trop ambitieux. C'est qu'il y a eu une crise majeure au niveau du ferroviaire français avec, on peut dire, l'effondrement du fret ferroviaire de la SNCF. Et que l'ouverture du marché, l'apparition des opérateurs fret de proximité, enfin, une forme de redynamisation du secteur, prend plus de temps que ce qui avait été imaginé. Mais il faut être optimiste. On voit bien que, par exemple, dans le transport multimodal, il y a des progrès potentiels qui sont à la fois des progrès au niveau de l'organisation, de nouveaux acteurs, mais aussi des progrès en termes technologiques. C'est-à-dire que ce qui coûte cher dans la logistique en général, c'est les ruptures de charge, et il y a des progrès technologiques qui vont permettre de progresser. Bon, je ne vais pas vous assommer avec tous ces éléments un petit peu
on
technologiques.
On approfondira dans voilà. le débat tel
Mais
ou tel point.
Le message quand même qui me semble-t-il est important, c'est que on voit quand même apparaître des manières différentes d'organiser et de gérer la fonction logistique. Et vous parliez d'un déclencheur. Moi, je reste convaincu que l'évolution va se faire aussi au travers de l'évolution des politiques publiques, en particulier... C'est que la taxation du carbone, c'est un élément très important dans la logistique. Si finalement être vertueux, ça ne rapporte rien ou ça ne coûte rien de ne pas l'être, ça joue beaucoup. Il y a des aspects réglementaires. On n'a pas parlé de logistique urbaine, mais là, il va y avoir une rupture, une dimension, parce que la plupart des villes, des grandes villes, on le voit à Bordeaux, hein, en particulier, essaient de libérer leur centre-ville. Donc il y a beaucoup de signaux faibles qui laissent penser que dans les 10 ans qui viennent, le paysage de la logistique aura beaucoup évolué.
Des signaux qui sont des signaux économiques, dites-vous, financiers, mais aussi réglementaires.
Oui.
Merci. Alors, on continue le tour de table avec Laurent Briand. Je le disais tout à l'heure, vous représentez les opérateurs de transport public, l'UTP, et vous êtes directeur général de CityWest. CityWest, c'est une filiale de Veolia Transdev qui est un peu particulière, puisque vous faites du service en deux mots, et on comprendra aussi pourquoi l'UTP aujourd'hui et les opérateurs sont représentés par quelqu'un qui fait des systèmes d'information, qui optimise les réseaux de transport, travaille sur l'information des usagers, des voyageurs.
Oui, bonjour à tous. Alors d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser Francis Grasse, qui est administrateur de l'UTP, directeur général de Veolia Transport France, mais qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Je suis bien incapable de le remplacer, donc je vais parler en mon nom et pas au sien. Donc, je suis effectivement directeur de CityWay, qui est une filiale de Veolia Transport. On a eu, il y a 3 semaines, le prix international de l'innovation au congrès de l'UITP, de l'Union internationale des transports publics à Dubaï, pour le système de services intégrés dans l'Oise, donc, qui est un système qui regroupe tout mode de transport, vélo, covoiturage, transport en commun, véhicule particulier.
C'est un portail internet avec le Conseil général de l'Oise qui donne toutes les informations nécessaires sur tous les modes de mobilité sur ce territoire et leur intermodalité.
Exactement. Et qui permet d'avoir de l'information en temps réel sur tous les modes et à travers tous médias, centres d'appel, bornes interactives, ainsi de suite. Je crois que ça illustre bien la première barrière à l'accès au transport en commun. qui est l'information. Donc on travaille énormément pour abattre au maximum cette barrière d'accès au transport en commun, pour apporter une information multimodale et faire en sorte que vous trouviez facilement le moyen de transport qui vous convient au moment où vous en avez besoin. Et optimiser, donc le comment faire pour obtenir des transports sobres à horizon 2020, je crois qu'il y a un premier axe qui est d'optimiser les moyens existants. Il y a déjà beaucoup de moyens existants et il y a de gros efforts à faire pour les optimiser, mieux les agencer entre eux. Deuxième barrière, c'est la billettique, la vente de titres et la coopération institutionnelle sur des bassins de vie comme Lyon, Marseille, l'Oise, ainsi de suite. Il y a parfois plus d'une dizaine d'autorités organisatrices qui interviennent sur un même bassin de vie. Donc c'est complexe et on travaille à lisser cette complexité pour le voyageur.
Alors, complexité dans l'arrière-boutique et puis simplicité devant pour l'utilisateur, le voyageur, autant dans la billettique, et ça vos systèmes peuvent y participer, et puis dans l'information. Mais si on s'attarde un instant sur les zones peu denses de ce territoire sur lequel vous travaillez, si on prend l'exemple de l'Oise, on voit aussi la nécessité d'organiser de la mobilité dans ces territoires où c'est plus difficile, parce que là, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de bus à haut niveau de service.
Oui, alors au lieu de prendre l'exemple de l'Oise, je vais prendre l'exemple de la Gironde, honneur à la Gironde,
allons-y.
Très beau département, qui est également exemplaire. Il y a encore peu de temps pour aller de Libourne à Arcachon. Vous deviez soit appeler 3-4 opérateurs, chercher l'information du côté TER, chercher l'information du côté du Conseil Général, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la coopération entre les différentes autorités organisatrices a permis de faire émerger un système d'information multimodale autour de Transgironde qui regroupe l'urbain et tous les interurbains dans le département.
Ce que vous appelez faire tomber les barrières. Hein.
Voilà, ça participe à une simplification pour le voyageur qui s'en fiche de ces problèmes, de ces complexités. Et pour répondre à votre question, le Conseil général de la Gironde donne l'information sur la façon de rejoindre en voiture ou en covoiturage les arrêts de transport en commun les plus proches quand ils sont malheureusement à quelques kilomètres de votre point de départ. Donc dans les zones peu denses, il faut imaginer des systèmes de rabattement pour envoyer vers des lignes structurantes, et les systèmes de rabattement peuvent très bien être par exemple le covoiturage ou la marche à pied, hein, si pour les bons marcheurs, suivant la distance.
Quand on préparait le débat, Laurent Briand me disait que votre société, Cityway, avait moins de 10 ans. Et quand on travaille aujourd'hui ensemble dans ce débat, on se projette à un horizon de moins de 10 ans aussi. Donc on voit les évolutions très rapides. Et aujourd'hui, des choses qui sont un peu des expériences pilotes sont appelées à se généraliser. À quelle vitesse? Comment aussi l'utilisation peut-être de la téléphonie mobile peut être utile pour le développement de ces nouveaux systèmes d'information?
Oui, alors ce que personne n'aurait dit il y a 10 ans, c'est que le téléphone portable pouvait être un engin important pour simplifier la vie des voyageurs. C'est quelque chose qui peut vous amener l'information en temps réel, qui peut vous permettre d'acheter un titre, de valider et d'être multititre, c'est-à-dire de valider votre montée dans les cars, dans les bus, de libérer un vélo ou de libérer une voiture en autopartage. Donc c'est les systèmes sur lesquels on travaille. C'est un outil que vous avez en permanence sur vous. Donc je crois que la différence entre il y a 10 ans, la différence essentielle, puisque tout ce que j'ai dit auparavant, j'aurais presque pu le dire il y a 10 ans. La différence essentielle aujourd'hui est apportée par le téléphone portable, qui est un outil qui, je pense, dans 10 ans, sera encore plus au cœur et qui a tendance à se déployer, enfin plutôt les smartphones, hein, qui a tendance à se déployer rapidement.
Merci Laurent Briand. Thierry Sagnès, vous êtes le délégué général de la CLCV, hein, Confédération Logement Cadre de Vie. Vous apportez la voix des usagers par rapport à ces évolutions, par rapport aussi à l'acceptabilité sociale de l'innovation en matière de mobilité, par rapport aussi aux demandes qu'ont aujourd'hui les gens pour mieux bouger sur les territoires.
Alors, c'est un vaste sujet. Quelques réactions par rapport à ce qui a été précédemment avancé. Sur les objectifs qui ont été portés par monsieur, qui sont déclinés dans les lois dites Grenelle, il y a effectivement la volonté de développer les transports dits durables et collectifs. Il y a quand même un certain nombre de questions. Il faut qu'ils soient effectivement attractifs. Donc on se pose effectivement toujours aussi la question du prix. On voit l'exemple en ce moment, les prix des carburants sont très élevés. L'exemple espagnol, où pour rendre compétitif et attractif le transport collectif, les prix du train ont baissé. Ce qui est malheureusement loin d'être le cas en France, puisque au contraire, la SNCF, outre le fait que les grilles ne sont pas tout à fait lisibles pour tout le monde, les prix sont quand même à la hausse. Et donc ça pose quand même un problème en termes d'attractivité. L'attractivité, c'est le prix, mais ce n'est pas que le prix. Personnellement, je vis en Île-de-France, par exemple. Je pense que la situation est plus difficile. C'est normal, c'est une agglomération de 12 millions d'habitants. Mais c'est vrai que prendre les transports collectifs en Île-de-France, c'est souvent quand même pas très attractif. Il faut bien le reconnaître. J'entends en termes de qualité du transport. Les façons dont on sont transportés sur certaines lignes de métro ou de RER sont aujourd'hui, mais je ne jette pas la pierre parce que c'est extrêmement compliqué. Je regardais les graphiques que vous aviez sur la densité. Paris et Île-de-France ont une densité, un transport collectif qui est sûrement l'une des meilleures ou la meilleure au monde. Mais aujourd'hui, c'est effectivement, souvent la qualité n'est pas au rendez-vous.
Donc, sur le prix, aussi justement le facteur temps entre la décision, par exemple, de renouveler un parc et puis le moment où il sera opérationnel.
Oui, mais ça pose des questions, pas uniquement, alors là on est sur le transport, pas uniquement de transport en termes techniques, mais aussi d'aménagement du territoire, d'urbanisme, etc. Il faut voir plus largement. La mobilité durable, c'est souvent celle qui n'a pas à être faite. Donc toute la question essentielle qui ont été notamment pesées dans le cadre du Grenelle et les réformes des documents d'urbanisme, qui visent à harmoniser un peu les lieux de travail, les lieux d'activité économique, etc., pour pas faire de sorte que les gens soient transportés d'est en ouest systématiquement.
Alors on y viendra
aussi plus nationalement la question aussi de l'aménagement du territoire. Donc voilà, ça c'est un aval.
Effectivement, le développement le plus durable et le plus vertueux, c'est les transports qu'on va éviter.
Voilà, alors télétravail, documents d'urbanisme, etc. Il faut effectivement que la question soit...
Je vous propose qu'on y revienne tout à l'heure.
Sur la personne qui... Le professeur d'université, donc sur les aspects sociologiques... Effectivement, l'innovation sociale, la société crée de l'innovation, et il est difficile, même si on peut identifier des points faibles, de voir ce que sera la société dans 20 ans. En tout cas, l'idée selon laquelle on peut avoir une gouvernance à plusieurs, c'est un peu ce qui a guidé la mise en place de ce qu'on appelle le Grenelle, c'est quelque chose qui, pour nous, à la CLCV, est particulièrement important, et ne serait-ce que le fait qu'on soit invité, c'est quelque chose qui nous séduit dans ce cénacle, puisqu'il y a pas mal de chercheurs, et il faut effectivement qu'il y ait un rapprochement, d'où la question de la concertation. Pour être à l'écoute de des habitants, il faut effectivement qu'il y ait de plus en plus de concertation. Alors, il y a des instances dans les collectivités, les CCSPL, vous devez connaître. Donc, effectivement, pour être à l'écoute des besoins de la société. En termes d'information, effectivement, c'est très important d'avoir l'information en temps réel, sur son portable, sur tout ce qu'offre le département ou la région en termes de transport. Mais ça nécessite aussi d'avoir la ponctualité, la qualité, etc. Donc, il faut aussi être informé des retards en temps réel. Et pas seulement être informé du train qui normalement part à telle heure, parce que maintenant on va voir que la SNCF vient d'inventer les horaires variables, donc ça va devenir de plus en plus difficile. Sur les zones non denses, nous on s'est exprimé beaucoup sur la question des carburants, parce que la question des carburants pour nous apparaît comme une dépense contrainte pour une grande partie des consommateurs, c'est ce qu'ils nous disent dans les permanences de la CLCV, et notamment pour les zones périurbaines ou les zones rurales où on n'a pas le choix, on est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler. Donc c'est une dépense qui apparaît contrainte pour beaucoup de personnes, contrairement à ce que...
Et de plus en plus lourde.
Oui, contrairement à ce que pensent peut-être d'autres personnes qui vivent dans des zones où effectivement on peut prendre les transports collectifs. Donc l'avenir ira sûrement sur des systèmes mixtes avec effectivement en voiture jusqu'à une gare de RER ou de train, le covoiturage... Il faudra mixer, mais la question des prix du carburant se pose pour une partie de la population et souvent la plus modeste. Donc ça, c'est quand même une question importante. et sur lequel il faudra, à notre sens, à un moment prendre des décisions, parce que ça devient insupportable pour une grande partie de la population qui n'a pas aujourd'hui le choix de prendre un transport collectif.
Alors vous avez évoqué la concertation avec les usagers, la place qui est faite aujourd'hui aux citoyens, à toutes les parties prenantes dans la gouvernance de la mobilité. Est-ce que on est arrivé à maturité sur ce point? Est-ce qu'on doit progresser? Comment encore progresser sur la codécision?
Il y a un progrès. Maintenant, la maturité, elle est sûrement pas encore au rendez-vous, parce que c'est souvent trop de l'information aujourd'hui. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les décisions sont prises. Et à un moment, on se sent obligé de consulter les habitants ou la population, et on informe. Voilà. Mais c'est pas ça, la concertation. La concertation, on doit effectivement demander, consulter avant les décisions. Sinon, ça n'a plus beaucoup de sens. Et aujourd'hui, si l'évolution culturelle, effectivement, progresse, et que les décideurs publics sont de plus en plus convaincus qu'il faut mieux concerter, on est encore au stade d'une information. Et il y a encore des progrès à faire, c'est indéniable.
Mais ça progresse. Oui, l'expertise d'usage ou cette innovation sociale.
L'expertise d'usage, c'est très important. Oui. La gouvernance à 5, c'est que chacun amène sa complémentarité. L'habitant ne remplacera jamais le professionnel du transport, l'ingénieur, les pouvoirs publics locaux, etc. Le tout, c'est d'avoir que chacun s'écoute. Mais le coup est tiré, je dirais, et culturellement, on n'est pas encore à maturité, mais ça viendra avec les années.
On termine ce tour de table avec le représentant des constructeurs automobiles, avec Thierry Bastien, qui est directeur de la recherche des études avancées et des matériaux de Renault. Puis après, on rentrera dans le débat entre vous qui êtes à la tribune, et puis avec vous tous, il y a des micro-baladeurs, vous ferez signe, et donc vous pouvez déjà préparer vos interventions.
Donc, merci, enfin, c'est Rémi Bastien. Mais...
Pardon.
Bonjour à vous tous. Donc, je suis heureux d'avoir l'occasion de parler d'un produit qui a souvent une mauvaise image, et je dois dire parfois avec quelques raisons. Là, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit M. Kovarik tout à l'heure. La mobilité, c'est d'abord une expression de la liberté. Et j'avais un de mes célèbres confrères de Mercedes, professeur Mikulik, qui faisait remarquer que la mobilité n'est pas une conséquence de la prospérité, la mobilité des biens et des personnes, mais c'est une cause de la prospérité. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut considérer que l'automobile a fait partie des moteurs de progrès au XXe siècle. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce modèle s'est un peu essoufflé, puisque comme toute industrie, il a été beaucoup basé sur le fait que les ressources étaient inépuisables, ce dont on a effectivement fini par comprendre que c'était faux. Alors, on arrive à un moment où à peu près toute la profession est en train de regarder comment réinventer l'automobile de façon à ce que l'automobile puisse continuer à participer au progrès. Et nous voyons finalement 5 grands défis devant nous pour faire de l'automobile encore un moteur du progrès. Et évidemment, le tout premier, c'est la partie environnementale. Comment réduire de façon drastique le CO2. Donc les chiffres qui ont été mentionnés par M. Kovarik, en ce qui concerne donc les constructeurs au niveau européen, nous devrons passer d'une situation actuelle qui est effectivement sur le parc à peu près 160 grammes par CO2 à moins de 100 grammes en 2020. En ce qui concerne Renault, notre plan est d'être en avance de 4 ans et d'atteindre donc moins de 100 grammes dès 2016. Avec une initiative dont vous avez entendu parler sur le véhicule électrique, mais qui n'est pas le seul levier sur lequel nous allons jouer. Deuxième, dans l'environnement, il y a aussi les émissions, dont on ne parle pas forcément aujourd'hui, mais qui restent un aspect qui mobilise beaucoup de force, et puis le recyclage. Deuxième grand défi, c'est la sécurité, de façon à tendre vers zéro blessé grave. Et je crois qu'on démarre cette année la décade pour la sécurité routière au niveau de l'ONU. Le troisième défi, c'est la mobilité pour tous. Il faut savoir que les trois quarts de la population mondiale n'a pas accès à la mobilité individuelle par automobile. Le quatrième défi, c'est de faire en sorte que le voyage à bord d'une voiture soit un plaisir. J'ai noté ce que disait M. Sagnez. Le transport ne doit pas être une punition, c'est important que la mobilité soit un moment agréable. Donc pour le conducteur, tendre vers zéro stress. Et là, la voiture connectée est un moyen de libérer le stress du conducteur, mais également les autres occupants de la voiture. Et enfin, le dernier défi, c'est placer l'automobile dans un système de mobilité plus global et que l'automobile soit vraiment dans un système d'intermodalité. Donc ça a été mentionné tout à l'heure, mais effectivement le smartphone...
Alors concrètement, ça va se jouer sur les systèmes de navigation embarqués, ça va se jouer sur des automatismes.
Alors d'ores et déjà, donc on a effectivement des systèmes de navigation qui sont connectés, donc qui permettent d'informer le conducteur sur les conditions de trafic qu'il va avoir. Très très rapidement, on va avoir une connexion avec le smartphone, de façon à faciliter tout ce qui est covoiturage. On a déjà des initiatives avec des start-up pour des services qui permettent à quelqu'un qui est à pied et qui veut se déplacer de trouver très rapidement quelqu'un qui fait le trajet en voiture équivalent et réciproquement. Et puis après, il y a aussi l'automatisation de la voiture là, qui vont rendre possible un certain nombre de choses. On a une initiative sur le plateau de Saclay, Mobilité 2015, où en site propre, on va être capable d'offrir un service de voiturier automatique. Des habitants, enfin des gens qui travaillent sur le site de Saclay et qui seraient amenés à se déplacer, pourront faire appel à une voiture de service qui viendra les chercher au pied de leur bâtiment. Et une fois qu'ils seront à bord, c'est eux qui seront les seuls maîtres à bord. Et quand ils ramèneront la voiture, elle ira se garer toute seule. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on commence à travailler.
La Google Car, un peu.
Alors la Google Car, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rouler dedans. Alors là, c'est encore un peu plus ambitieux puisque c'est une voiture qui est en expérimentation en Californie et qui peut se déplacer sans que le conducteur interagisse. Il y a toujours quelqu'un au volant au cas où pour l'instant, mais ça fait partie des perspectives. D'ici 2020, on commencera à avoir un certain nombre de choses dans ce sens-là.
Mais ce que vous nous dites, c'est que dans cette chaîne de mobilité, dans cette complémentarité dans laquelle vous vous inscrivez, si je vais prendre mon train ou que je vais vers un parking relais pour prendre le tramway, je laisserai ma voiture à l'entrée du parking et elle ira se ranger toute seule.
C'est un cas qu'on est en train d'étudier, effectivement, oui, tout à fait.
Voilà où passe l'innovation aujourd'hui, avec peut-être alors un focus particulier sur les véhicules décarbonés, puisque vous êtes vraiment en pointe dans ce domaine.
Bon, alors je pense que c'est effectivement l'occasion de préciser peut-être un petit peu les choses. Donc Renault, avec son allié Nissan, s'est lancé dans une initiative pour promouvoir le véhicule électrique. Cette année, nous allons mettre en vente deux premiers véhicules, donc un véhicule particulier qui est sur la base d'une Mégane et un véhicule utilitaire. Nous offrirons aussi un petit véhicule qui est en quelque sorte un quadricycle, donc pour le dire autrement, c'est un scooter à quatre roues. Voyant finalement le succès des scooters trois roues en ville, on a imaginé un véhicule qui est peut-être plus rassurant puisqu'il est bien sur quatre roues, mais qui est presque aussi étroit qu'un scooter, donc qui s'insère dans la circulation très facilement. Et puis donc l'an prochain, une voiture de la taille de la Clio. Alors ça, de notre point de vue, enfin, on est engagé pour avoir à peu près 10% de nos ventes en 2020 en véhicule électrique. En tout cas, c'est notre objectif. Qui signifie qu'il restera 90% de nos ventes avec des véhicules thermiques, mais pour lesquels, là aussi, il y a un effort très très important pour contribuer à atteindre donc notre niveau de CO2 en avance sur la réglementation européenne dès 2016.
Et des développements aussi sur le transport de marchandises. Votre voisin de droite parlait des difficultés sur les zones denses urbaines pour le transport, le dernier kilomètre. Là aussi, ces solutions techniques sont appelées à se développer.
Alors, dans le cas de Renault, donc, on est sur les véhicules utilitaires, pas les véhicules industriels. Et nous avons, en coopération avec Gruau, un projet de véhicule utilitaire, donc pour le transport de fret, pour faire la livraison du ou des derniers kilomètres. Donc véhicule électrique, 3 mètres de long, 3 mètres cubes, donc extrêmement compact, mais qui permettra effectivement de faire les livraisons.
3 mètres de long, 3 mètres cubes, voilà, c'est ça. Et avec donc quelque chose qui est plus proche du scooter que de la voiture.
Non, là, en l'occurrence, il faut quand même un petit peu de largeur pour pouvoir embarquer les marchandises. Donc, il aura 3 mètres de long et une dimension de faire largeur d'une palette, quelque chose comme ça, quoi.
Olivier Morel, ce genre de solution, ce mix de solutions en matière de transport de marchandises suppose aussi l'organisation d'infrastructures. Comme tout à l'heure, quand Rémi Bastien nous parle du véhicule électrique, on voit la nécessité aussi pour les territoires, pour les villes, de s'équiper de recharge. Vous, c'est s'équiper de base pour permettre l'interopérabilité entre les modes de transport.
Alors, au niveau des infrastructures pour les véhicules électriques, je pense qu'il faut être clair. Les infrastructures des véhicules électriques, elles ne seront certainement pas pensées d'abord pour le transport de marchandises. Je crois que il est souhaitable que l'infrastructure soit mutualisée, et je pense qu'elle le sera quand même. Et il est souhaitable aussi d'ailleurs que les véhicules qui seront mis en service aient une autonomie suffisante pour ne pas nécessiter justement une infrastructure de la voirie spécifique. Vous savez, je voulais juste faire une remarque. Bon, il y a monsieur Bossir, professeur Bossir pourra préciser ça, mais je crois que la voirie a été très récemment occupée par le stationnement et les véhicules. C'est quelque chose qui est apparu, je pense que c'est dans les années 1850, 1860. Donc on va revenir probablement dans les villes à une libération en quelque sorte des espaces de voirie, et ça va sans doute permettre une meilleure mixité entre les transports de marchandises.
Comment on fait pour libérer cet espace?
On libérera parce qu'on mettra des restrictions sur l'accès, et que les gens qui auront des véhicules les mettront dans des garages. Donc je pense qu'il y aura tout un... Regardez déjà dans Bordeaux, je pense qu'on est en train d'aller vers un partage différent de l'espace. Alors on parle des centres-villes. Donc, il y a nécessairement des évolutions fortes qui vont avoir lieu, oui.
Évolution réglementaire aussi. Alors, Francis Bossir, vous qui avez entendu les différents intervenants, par rapport à cette innovation sociale que vous traquez, que vous surveillez en permanence, est-ce que aujourd'hui, par exemple, le fait de faire participer davantage les usagers, les citoyens à la codécision de politiques qui concernent leur mobilité, c'est quelque chose qui est appelé à se développer, et comment?
Oh là là, c'est une question très compliquée. Quand vous posez la question comme ça, on a encore vraiment toujours l'impression qu'on se place du côté de l'institution qui dit « vous ». Corps social, appelons ça comme on voudra, nous allons vous faire participer. Tout à l'heure, je m'étais placé de l'autre côté en disant, je me fous complètement, moi, comme corps social, qu'on me fasse participer ou pas, je vais le faire. Voilà, c'est ça qui est en train de se produire. Alors, organiser le débat public, c'est une chose. Organiser le débat public est un moyen probablement d'organiser un peu de rencontres, de désamorcer du conflit, d'éviter de perdre du temps. On le voit bien sur les grands débats publics, sur les lignes à grande vitesse ou des choses comme ça. Mais en réalité, il y a un petit peu de supercherie derrière. C'est une façon quand même... Alors, comme le disait tout à l'heure M. Sagnier, principalement, c'est de l'information. Bon, donc moi, ce que je m'étais placé de l'autre côté, en disant, de toute façon, faites tout et on puisera dedans. Et là où on ne trouvera pas, on inventera. Et on inventera en transformant tout simplement nos programmes d'activité, notre façon de voir les choses. Et au fond, ce sont les gens les plus modestes dans les milieux les plus mal foutus qui nous montrent le modèle. J'ai même envie de dire, bon, je me rappelle dans une étape antérieure de ma vie universitaire, d'avoir travaillé sous la direction de Gabriel Dupuis au Pierreville, le programme interdisciplinaire de recherche sur les villes, il y a quand même assez longtemps. Et en fait, on avait fait observer par des chercheurs la façon dont en Inde et au Brésil se développaient des formes de mobilité en l'absence de réseaux techniques, en l'absence de ressources budgétaires pour acquérir toutes ces choses formidables dont on est en train de parler aujourd'hui. Et finalement, voilà, il y a une espèce d'ajustement aux ressources disponibles. Bon, ça se fait la plupart du temps sous contrainte, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ma vie à moi aussi, elle est contrainte. Peut-être personne ne m'a demandé si aujourd'hui, je n'avais pas envie de faire autre chose que d'être ici, par exemple. Donc, c'est valable pour tout le monde, tout le temps. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il y a la société, il y a les gens. Alors, ils vont puiser, et puis quelquefois, il y a des quiproquos technologiques. ce que je dis à mes étudiants, c'est une petite histoire simple. Il y a un type qui invente des fers à repasser électriques et qui les met en vitrine. C'est un inventeur, une sorte de géotrouve-tout, qui invente le fer à repasser électrique avec le fil et puis les met l'un en face de l'autre. Et quelqu'un rentre dans la boutique et dit « Je voudrais acheter les serre-livres là, mais pourquoi avez-vous mis des fils ?» Je pense que ça, c'est le... Bon, alors, dans tout ce qu'on propose, il y a des choses qui probablement vont tomber à plat. L'autre question, c'est qui va s'en servir ? Et en réaction à ce que j'ai entendu, bon, je regarderai plutôt. Alors, dans l'Oise, c'est très bien. Je vois l'Oise. Ou alors Libourne-Arcachon. J'ai bien entendu ça. Puis, bon, je vais avoir toute l'information. Est-ce que je vais avoir le transport avec ? Alors, peut-être que quand j'aurai vu toute l'information, je vais me dire, c'est quand même ma petite Clio toute simple, qui n'a pas encore tous les bidules que vous avez indiqués tout à l'heure. C'est elle qui va me rendre le meilleur service. Est-ce que, donc, j'ai envie de vous renvoyer la question. Avoir toute l'information, qui va accéder à toute l'information? J'espère que vous allez suivre ça dans le temps. Est-ce que c'est 1% des gens? Est-ce que c'est les plus agiles? Est-ce que, bon, ou est-ce que ça se généralise dans la société? C'est quand même ça le but de l'opération. Et puis une fois que j'ai toute l'info, qu'est-ce que je fais de l'info si derrière j'ai pas le moyen de transport? Au fond, est-ce que j'ai un Libourne-Arcachon facile? Est-ce que dans l'Oise, je peux combiner de l'interurbain, de l'urbain, du régional, etc. Ou bien est-ce que je m'aperçois que l'information me montre que je ne peux pas? Bon, donc j'ai envie de dire, on peut produire toutes ces petites choses pour que ça prenne comme on fait prendre la mayonnaise. Il faut qu'à un moment donné, dans la mayonnaise, c'est simple, on ne revient pas à la fin en disant « rendez-moi les œufs », quoi. Ça a pris.
L'innovation pour qui?
Voilà, c'est ça. L'innovation pour qui?
À quel rythme?
Alors,
on va poser tout de suite la question à Laurent Briand. Et puis, Thierry Sagnez aussi interviendra là-dessus.
Oui. Je crois que mon voisin voulait intervenir aussi. Oui. Ouais. Beaucoup de choses à dire sur tout ça. Je vais essayer d'être très concis. D'abord, sur les remarques précédentes, avant de répondre à monsieur. Au Brésil, il y a eu une initiative d'un constructeur automobile qui a conçu une voiture sur Internet par les Brésiliens. Il fait concevoir par les Brésiliens une voiture sur Internet. Alors, peut-être le monsieur de Renault pourra rebondir, je connais pas grand-chose de plus que ce que je viens de dire. Mais Roland Ries, maire de Strasbourg, entendant ça, sur un congrès
président du GART, hein, président des autorités responsables de transport,
entendant ça sur un congrès du type de celui-là, disait mais pourquoi dans les transports en commun on fait pas la même chose, pourquoi pas demander concevoir des outils du type SimCity, du type jeu, pour concevoir le réseau urbain de Strasbourg. Alors évidemment c'est plus compliqué qu'il paraît. Si tout le monde demande un tramway au pied de sa porte qui passe toutes les 30 secondes, on aura du mal à le financer. Donc, mais intégrant certaines contraintes, je pense que par les outils informatiques, alors je ne vais pas vous mettre de l'informatique partout, mais par les outils collaboratifs aujourd'hui, on peut faire beaucoup. Alors évidemment, d'une part, pour répondre à monsieur, d'une part l'informatique, ce n'est pas le transport. Il faut une offre de transport. Informatique informe sur les transports. S'il n'y a pas d'offre de transport, elle va vous dire il n'y a pas de transport. On n'invente rien, il n'y a évidemment pas de miracle.
Oui, d'autre part, avec notre carte, on voit les chaînons manquants aussi. Hein.
On voit quelques chaînons manquants, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est donc également un outil pour les autorités organisatrices, pour les élus et pour les décideurs. C'est également une prise de conscience. C'est pas si facile que ça de savoir où sont les chaînons manquants, Et c'est donc également un outil de concertation, puisque les usagers, par l'intermédiaire des centres d'appel, des agences, viennent dire, mais là, moi, j'ai besoin, prennent conscience de... Alors, c'est donc, il faut un courage politique, parce que les usagers, par la mise en place de ces systèmes d'information multimodaux, prennent conscience que, bah, finalement, il n'y a pas de transport donc, pour aller de tel endroit à tel endroit, il y a une lacune dans l'offre. Donc, tout de suite, on met en évidence des lacunes dans l'offre. Donc, il faut un certain courage politique.
Pour optimiser les réseaux et optimiser les modes.
Et donc, c'est utilisé par les élus et par les décideurs pour optimiser ces réseaux. Et enfin, dernier point pour être bref, bien évidemment, tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas accès à un smartphone, donc il faut modérer mes propos. Il ne faut rien opposer à rien. Bien sûr, les agences, le contact physique, l'information par les conducteurs, l'information en centre d'appel... rien ne s'oppose à rien, tout est complémentaire. Le téléphone portable remplacera ce que je vous disais à un moment, on remplacera pas les plans format A4. Vous arrivez à Bordeaux, j'ai pris le tramway pour venir ici. Mon premier réflexe n'était pas d'allumer mon smartphone. Mon premier réflexe était de regarder le plan de situation à l'arrêt à la station de tram. Donc les médias s'opposent pas et j'oppose pas les choses entre elles.
Là aussi, complémentarité. Alors Thierry Sagnès, vous souhaitez intervenir? Vous pouvez déjà faire signe aux hôtesses avec leur foulard rose pour intervenir. Voilà, allez-y.
Oui, pour la petite histoire, ça n'est pas totalement lié au débat, mais les smartphones et les dépenses en téléphonie mobile et autres Internet sont passés aujourd'hui à 5-6% du budget des ménages. C'est une dépense contrainte, je crois qu'il n'y a pas d'exemple similaire, où en 15 ans, on est passé de rien à 5-6%. Voilà, donc ça participe fortement aussi de la question du pouvoir d'achat. C'est une parenthèse. Sur les plateformes et autres sites, etc., bon, je crois que vous l'avez dit, il faut bien faire attention. Tout le monde n'y va pas et ça ne peut pas être comme le font certains. On a mis un site, donc voilà, c'est fait. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Sur Monsieur Boussir m'ont expliqué qu'effectivement le débat public et autres avaient ses limites ou pouvaient être galvaudés. Bon, ça c'est clair. Cela dit, la question du débat public et des modalités sont particulièrement importantes parce que c'est pas le tout même qui est une concertation. Il faut que la décision qui en découle apparaisse, alors je sais pas, soit transparente, soit légitime, mais qu'il y ait un minimum de modalités connues par ceux qui y participent pour que effectivement, parce que ce qui est important, c'est que la décision qui en sorte apparaisse comme légitime. C'est ça l'objectif. Donc c'est pas le tout de concerter. Il faut qu'il y ait des modalités. C'est pas simple. Mais là-dessus, vous posiez la question si aujourd'hui on était à maturité. C'est là-dessus qui, selon nous, il y a du travail à faire.
Alors, une première intervention, monsieur, vous présentez, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, Sébastien Gonguet, cabinet mobiliste. C'est une question adressée à monsieur Briand et qui va renforcer un petit peu ce que dit monsieur Bossir. Nous sommes en train de travailler sur un projet de recherche sur la communication, l'information, la billettique et à travers l'éthique dans les réseaux de transport et voir quelles sont les conséquences sur l'usage par les personnes âgées. Et donc bon, c'est plus des remarques que des questions, mais au niveau des centrales multimodales, on a eu l'exemple, on commence à travailler en Ille-et-Vilaine, donc de la centrale Ille-et-Nous, qui permet d'avoir de l'information sur l'ensemble des réseaux de transport du département, donc à savoir le réseau interurbain, le réseau urbain de Rennes, de Saint-Malo, etc., et le TER. Moins de 9% des consultations sur le site sont des consultations multimodales. Donc je ne sais pas si... Enfin, développer des outils comme ça... Et ensuite, une deuxième question, savoir comment est-ce que vous prenez en compte les difficultés des personnes âgées, plus spécifiquement, lorsque vous développez ce type d'outils. Voilà, merci.
Alors, comment on prend en compte les populations les plus vulnérables, effectivement, celles qui n'ont pas accès, qui ne sont pas nées avec Internet?
Voilà, trois questions. Merci. Alors, très bonne question. Les personnes âgées. Alors, on a fait une expérimentation, d'ailleurs, qu'on avait menée ici à Bordeaux. Et aujourd'hui, on déploie à Nice un système qui s'appelle BPASS, qui est un titre sur téléphone portable NFC, désolé pour les titres. J'aime les téléphones portables, je ne suis pas salarié Orange, ni SFR.
Donc, pour payer avec le téléphone portable.
Pour payer avec le téléphone portable et pour valider. J'achète mon titre, je valide. Et donc, première réaction, et les personnes âgées vont jamais s'en servir, elles vont pas savoir acheter à Nice, tous les clichés habituels, à Nice, beaucoup de personnes âgées à Nice, je vous passe la suite. Première expérimentation, 300 personnes, on a un peu surreprésenté dans le panel expérimentateur les personnes âgées volontairement pour étudier ça. Pas un abandon des personnes âgées, pas un. Personne n'a abandonné en cours d'expérimentation. Pour une expérimentation, c'est fabuleux. Les personnes âgées sont très utilisatrices, très demandeuses, et il n'y a pas cette barrière qu'on imagine.
Et vous savez pourquoi ça marche?
Parce que c'est simple. Vous passez votre téléphone devant le valideur, ça fait bip, et puis voilà, c'est fini. Il n'y a pas de barrière à l'utilisation. Enfin, c'est pas compliqué. Très facile à utiliser.
Moi, je me méfie quand vous dites c'est simple pour l'utilisateur, mais
je vous emmène à Nice. Alors.
Non, mais ok, c'est simple pour l'utilisateur, mais le back-office.
Ah, le back-office est très compliqué. L'arrière-boutique est très compliqué. On est des canards. On pédale dessous et puis en surface, tout a l'air serein. Mais dessous, je ne vous raconte pas ce qui se passe. Hein, bon. Donc, l'image du canard.
Bien que demain, le transporteur pourra offrir le téléphone portable aux consommateurs, puisque de toute façon, le téléphone portable va lui devenir tout à fait essentiel.
Pourquoi pas. Voilà. Alors, pour la prise en compte des personnes âgées, des besoins des personnes âgées, et pas seulement, toute personne a besoin spécifique, des personnes à mobilité réduite, des malvoyants, des personnes en fauteuil roulant, ainsi de suite. Tous les systèmes d'information sont pris en compte pour répondre aux besoins des personnes à besoins spécifiques. Par exemple, pour les malvoyants, l'exemple que j'aimais à donner, c'est qu'on recevait des courriers de félicitations de personnes non-voyantes sur nos sites internet. C'est-à-dire que les non-voyants sont les premiers. Alors ça, c'est surprenant, hein, c'est évidemment, quand on le dit comme ça. Donc les aveugles sont parmi les premiers utilisateurs d'Internet, puisqu'ils ont un besoin d'accès à l'information. Et on reçoit des courriers de félicitations en disant les sites sont très bien conçus. Et donc dans les transports en commun, comme dans tous les services publics, l'administration française a produit des règles qui s'appellent les règles de la RGAA, le règlement général pour l'accessibilité. Et donc qui permet à un malvoyant d'utiliser un site. Et pour les personnes âgées, la prise en compte de tous leurs besoins, tous les besoins sont pris en compte. Et il y a encore énormément de progrès. On est loin du compte.
Est-ce que vous créez aussi des emplois, des médiateurs, des gens qui expliquent, ou alors tout se passe par automatisme? On se souvient récemment que le médiateur de la République a critiqué justement cette relation automatisée avec toutes les barrières qui sont infranchissables pour une catégorie de la population.
C'est quelque chose qu'on voit de manière beaucoup plus large sur tout un tas de services, que ce soit l'énergie, la téléphonie et autres. Et effectivement, il y a une grande partie ne peut pas être automatisée, déjà parce qu'il y a une partie des gens pour qui ça pose un problème. Et puis après, la nature du conseil, la nature de l'appui n'est pas du tout le même. Il y a des personnes qui souhaitent avoir, c'est pas du tout la même chose. Puis après, je vous passe l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, qui est encore autre chose.
Francis Bossière, vous pensez que ça peut être justement des facilitateurs de l'intermodalité, des conseillers, des gens qui...
Comment dire non?
Oui.
À une question posée comme ça. Oui, forcément. Mais j'en
reviens derrière,
toujours...
est-ce qu'on peut imaginer aussi, dans cette innovation sociale, à côté de l'innovation technologique ou industrielle, de nouveaux métiers au service de la mobilité, plus généralement?
Oui, sûrement. Il y a sûrement besoin de beaucoup de métiers qui rendent des services à tout le monde dans tous les domaines. Je pense que c'est pas seulement une question de mobilité, c'est dans tous les domaines de la vie courante. Mais je voudrais revenir inlassablement sur cette question de la diversité de la société. Si on est pratiquement ramené à l'individu. Bon, là l'objectif, s'il faut faire baisser de façon assez massive des consommations d'énergie fossile et des émissions de gaz à effet de serre qui leur sont liées. Massivement, ça veut dire qu'on s'adresse à tout le monde. Et la plupart des enquêtes, les enquêtes marketing très fines, généralement inconnues, puisqu'elles sont la propriété de ceux qui les commanditent, mais aussi toutes les enquêtes de sociologie ou de géographie sociale, montre qu'on n'a pas 95% des gens d'un côté, puis un résidu de 15%. On va se dire, bon, si 85% des gens adhèrent, c'est bien. Les 15%, on va voir ce qu'on peut faire. Ça s'appelle une politique sociale, chose comme ça. C'est pas ça, les réponses. Les réponses, et vous connaissez tous les enquêtes conduites par Keolis sous le nom de Keoscopie, enquête parmi d'autres, montrent qu'en fait, dans une société... on a 15%, un groupe de 15% de gens qui pratiquent d'une certaine façon. Ensuite, on a un petit paquet de 12 qui font autrement. Donc, c'est des combinaisons de pratiques, c'est des façons de voir les choses. Et puis, c'est relié à des tranches d'âge, à des milieux sociaux, à des milieux géographiques. Donc, chaque fois, c'est une petite mécanique. 15%, 12%, 18%, et c'est ça qui fait les 100%. Si on ne s'adresse pas à la palette complète, on n'a pas d'espoir de voir basculer massivement dans la société en général.
S'adresser à cette palette avec donc des réponses très diverses aussi.
Vous dites qu'il... Voilà. Ah. C'est pour ça que je suis d'accord. J'aime bien l'image du canard qui pédale là-dedans. Et puis ça se voit pas bien. Et puis en surface, ça fait très bien dire un dracard. C'est formidable. Bon. Moi, je pense qu'en fait, oui, c'est justement sous le niveau de l'eau qu'il faut travailler abondamment parce que en surface, il faut que ce soit simple. Moi, je me rappelle d'un truc très ancien, le directeur de la recherche chez Thomson, qui disait quand est-ce que les ingénieurs arriveront à produire un magnétoscope dont je sache me servir sans passer d'abord 3 jours sur le mode d'emploi en 18 langues. Bon, ben oui, voilà. Donc là, il faut que ce soit simple. Mais cette simplicité, elle doit s'appliquer à des diversités de demandes. Et je crois que l'idée d'un individu standard, c'est probablement pas la bonne réponse, mais je sais bien que dans le domaine industriel, on a quand même une certaine...
Alors là, on a progressé. Olivier Morel, vous souhaitez intervenir. Et je me rappelais aussi, faisant écho à ce que vient de dire M. Bossir, ce que vous disiez quand on préparait le débat, on disait que sur les politiques de mobilité, on était dans une culture administrée et qu'on passe à une culture de service davantage.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça rejoint l'idée qu'on va avoir plusieurs, systèmes qui vont cohabiter. Moi, je suis tout à fait convaincu que aujourd'hui, si vous voulez, globalement, la logistique, elle a fait peser sur le transport à peu près toute la recherche de l'efficacité et de la performance. Hein. Alors, ça a été un peu schématisé sous le nom de juste à temps, etc. Donc, c'est ça qui va changer. C'est-à-dire, je crois qu'on va avoir cohabitation de différents modes et systèmes parce que les niveaux de performance demandés ne seront pas identiques. C'est-à-dire qu'entre, par exemple, la construction de véhicules qui nécessitent avec, on va dire, l'usine étendue, une vision mondiale, etc., donc nécessairement, on est dans une organisation logistique tout à fait particulière, avec des fonctions de transport nécessairement massifiées, très suivies, etc., et puis la distribution des légumes qui vont être produits dans un petit rayon autour de Bordeaux, avec des AMAP qui vont aller sur des marchés, etc., tout ça, ça fait partie du secteur. Et la remarque que je voulais faire, c'est que la logistique, c'est créateur d'emplois. C'est-à-dire, si on veut trouver des emplois de toute qualification qui vont à la fois de gens très qualifiés en matière de planification, de mathématiques, mais aussi beaucoup de gens qui font des opérations simples, on va les trouver dans la logistique. Donc, j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup plus de capacité à générer à travers cette fonction-là de l'emploi qu'à travers le transport de passagers. Voilà.
Qui souhaite intervenir, faire part d'une réaction, oui, poser une question ou faire une proposition?
Oui, bonjour, Nicolas Tronchon, je suis le président fondateur de Transway, une société qui récompense l'écomobilité. Je voulais simplement passer un message rapide en encourageant toutes les personnes ici à expérimenter, essayer, tester des petites choses qui peuvent apporter beaucoup de solutions. Il y a eu un clin d'œil hier sur des choses poétiques sur les sites de covoiturage et le covoiturage. Sachez qu'avec quelques dizaines de milliers d'euros, voire quelques centaines de milliers d'euros, on donne et on fait des démonstrateurs qui permettent de réfléchir et d'apporter des solutions. Je vous encourage vivement à le faire, que vous soyez collectivité ou État. La deuxième petite chose, c'est sachez que ce qui nous permet d'expérimenter et de faire par exemple des applications comme celle que décrivait Laurent tout à l'heure sur Nice ou même sur celle de Bordeaux il y a quelques années, c'est de pouvoir bénéficier de vos données d'exploitation. Et ça, c'est un élément qui est très important. Je vous encourage à suivre des mouvements comme les mouvements de l'open data, qui permettent à des start-up, grands groupes...
Open data, c'est l'ouverture des données publiques à tous les utilisateurs. Hein. Effectivement, il y a actuellement des villes françaises qui mettent en place, et l'État bientôt, qui va créer un grand portail avec l'accès à toutes les bases de données. Et ces bases de données, elles seront utilisées aussi par des associations ou des porteurs de projets d'entreprises pour pouvoir faire des applications.
Absolument. Et c'est fédérateur de valeur ajoutée, bien évidemment. Ce qui est important, c'est que ces données, elles doivent être exploitables. Et ça, c'est pas neutre. Et quand on parle du petit canard qui bat les pattes sous l'eau tout à l'heure, c'est absolument pas neutre. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire du côté de l'autorité pour mettre au bon format ces données. Voilà. C'était juste une petite intervention parmi d'autres.
Merci. Mais c'est indispensable. Qui souhaite intervenir? Sinon, Laurent Briand, sur l'utilisation, l'interopérabilité des systèmes. Quand vous évoquez donc le département de l'Oise, est-ce que c'est la bonne échelle pour intervenir un département? Est-ce qu'il y a d'abord une bonne échelle en matière de services à la mobilité?
Alors, je vais répondre. Sur la remarque de monsieur parlait d'Ilénou. Alors, je reviens 2 crans en arrière, désolé. Ouais. Et j'ai pas répondu. 9% de consultations pour d'informations multimodales, c'est ça? Donc, sous-entendu, est-ce la peine de faire des systèmes pour si peu? Alors, d'abord, rassurez-vous, ce système coûte très peu cher, premièrement. Deuxièmement, sur l'Ille-et-Vilaine, vous avez un système fait par le conseil régional qui s'appelle Bresgo, qui va encore apporter de l'information multimodale. Vous avez le réseau de Rennes qui importe de l'information multimodale. Donc finalement, 9 plus 9 plus 9 plus, ainsi de suite. Donc vous avez des tas de systèmes en concurrence, et donc ce qui me permet de rebondir sur votre question. Des tas de systèmes en concurrence. Alors, la concurrence, saine, malsaine, j'en sais rien, moi, c'est pas le débat. Mais qui viennent vous apporter, vous réapporter la même information, soit, au moins c'est, vous avez l'information par différentes sources. La bonne échelle, alors on voit bien dans le cas de l'Ille-et-Vilaine, on a le réseau urbain de Rennes qui est un gros réseau, un très beau réseau qui fait des très belles choses, qui est capable d'apporter de l'information multimodale à l'échelle d'une communauté urbaine. Vous avez le département qui est capable d'apporter des beaux systèmes aussi, et vous avez le conseil régional Bretagne qui apporte un système aussi, et l'État français via la FIMB qui réfléchit à une information multimodale nationale. Toutes les échelles sont bonnes. Désolé d'une réponse politiquement correcte, mais je le pense. Je pense que...
Et aujourd'hui, pour votre... l'interopérabilité est totale
Oui, oui. Alors, pour que les systèmes soient interopérables, il faut qu'ils respectent des normes. D'où la réponse à Nicolas Tronchon tout à l'heure. Pour faire de l'open data, rien de tel que de publier des données qui respectent des standards et des normes que tout le monde connaît. À partir du moment où on publie des données, alors les normes européennes s'appellent Trident, Siri, enfin, je vais pas rentrer dans des détails techniques, mais à partir du moment où ces normes existent, sont documentées, respectées dans toute l'Europe, je publie mes données à la norme Trident. Tout le monde est censé la comprendre, et c'est un fabuleux accélérateur d'innovation. C'est ce qu'on voit à Rennes. Hein. Je fais un déplacement domicile-travail, un déplacement quotidien. Je n'ai pas besoin du même service que quand je viens. Alors moi, je viens d'Aix-en-Provence, la région d'Aix-Marseille. Je suis venu à Bordeaux. Un système national qui me dirait au moment où je suis à Marseille et que je cherche comment venir à Bordeaux, que mon tram à l'arrivée a 5 minutes de retard, je m'en fiche quand je suis à Marseille. Enfin, vous voyez. Donc j'attends pas la même chose d'un système national, d'un système régional, d'un système urbain. Donc qu'est-ce qu'on attend avant de dire quelle est la bonne échelle? Qu'est-ce qu'on attend?
Et ce que vous nous dites, c'est que c'est par rapport à l'usager que doit être construit le système.
Exactement. J'ai au centre.
Rémi Bastien.
Peut-être un petit peu pour prolonger, en tant que constructeur, on a finalement un système assez généralisé pour les véhicules particuliers de possession de la voiture par son utilisateur principal. On voit bien qu'avec toutes les notions qui sont évoquées d'intermodalité, il faut aussi qu'on arrive à offrir de la mobilité avec un accès très facile, sans que l'utilisateur soit également le propriétaire de la voiture. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles
les solutions d'autopartage,
voilà,
par exemple.
Alors, on est obligé aussi de repenser un peu la voiture. Alors, l'autopartage, par exemple, une voiture qui va être utilisée par de très nombreux utilisateurs, on doit concevoir aussi l'intérieur de la voiture pour qu'il puisse durer assez longtemps avec des gens qui ne seront pas tous aussi soigneux les uns que les autres, par exemple.
Matériel rustique.
Oui, pas forcément. Bon. Bon, mais donc là, on est amené à repenser ça aussi, et puis faire en sorte que ce soit, on parlait tout à l'heure de complexité. Finalement, dans la téléphonie mobile, mais c'était déjà vrai dans les ordinateurs, des gens qui ont beaucoup de succès, ce sont des gens comme Apple, qui effectivement ont réfléchi pour que l'usage soit le plus simple possible pour tout le monde, mais ce qui suppose effectivement bien la parabole du canard, hein, pour arriver à... Enfin, c'est la notion de simplexité, quoi. C'est simple pour l'utilisateur, mais extrêmement complexe à développer. Et là, dès qu'on fait une voiture qui est utilisable par plein de gens, il faut effectivement pas que le conducteur ait besoin de consulter 350 pages d'un livre entre ce et d'une voiture.
Donc le modèle de l'innovation, c'est le canard.
Peut-être. Mais bon, entre la connectivité... Le fait que l'usage soit déconnecté de la propriété Et puis les tendances sociétales qu'ont évoqué M. Bossir, là, les réseaux sociaux, sont des choses où on a, je pense, on est assez loin d'avoir tiré les conséquences de ce que ça peut avoir sur le.
On a presque l'impression, en vous entendant les uns et les autres, que l'innovation sociale serait plus importante que l'innovation technologique, comme si on était arrivé à un moment de l'innovation technologique où, certes, on progresse, mais il n'y a plus d'innovation de rupture.
C'est sûrement un « et » plutôt qu'un « ou » exclusif.
Olivier Morel.
Je vais faire un parallèle, parce que vous dites, finalement, 2020, c'est dans 10 ans, bon, enfin, on a dit 2030. En 1990, enfin, il se trouve que moi, je me suis intéressé dans le tourisme à l'hôtellerie. Je vous garantis qu'en 1990, personne n'aurait imaginé qu'on ait à la fois l'accès et le parc de chambres d'hôtes qui existent aujourd'hui en France. Toutes les études, tous les spécialistes, etc., pensaient qu'il y aurait une progression, mais ça n'a absolument rien à voir. Et je suis intimement persuadé, et là la remarque que faisait Francis est tout à fait intéressante, c'est que l'évolution finalement de la société va faire, par exemple au niveau de la mobilité alors des personnes, mais aussi de la mobilité logistique, on aura le même type d'évolution. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de voir émerger va se produire, on ne sait pas exactement comment, mais ça va se faire. Et il est vrai que Internet n'a pas été pensé...
Et sur le fret, par exemple sur la...
Oui, bien sûr, Internet n'a pas été pensé pour faciliter la location de chambres d'hôtes. Mais pourtant, il y aura tout le temps de l'innovation technologique. Le génie, finalement, de la logistique, c'est organisationnel. C'est-à-dire, c'est la réutilisation de ces potentiels et de les détourner un petit peu de leur origine pour les utiliser au mieux.
Trouver les meilleures applications. Oui, monsieur, c'est à vous.
Oui, ma question s'adresse...
En vous présentant, s'il vous plaît.
Daniel Fédou, CGEDD. Ma question s'adresse plus particulièrement à monsieur Morel. Vous avez dit qu'en matière de transport de marchandises, vous pensiez à des grands progrès potentiels en matière de mutualisation des transports. Mais sauf erreur de ma part, le transport routier, déjà, se fait beaucoup de travail pour remplir ses camions et donc pour, en fait, avec un même moyen de transport, avoir des marchandises venant de nombreuses entreprises différentes. Le ferroviaire essaie aussi de le faire par différents moyens. Par conséquent, j'aimerais, si vous avez un instant, nous expliquer quels sont les gains sensibles que vous voyez dans ce domaine-là, alors qu'il me semble que beaucoup a déjà été fait.
Alors, le potentiel. Quand on préparait le débat, vous me donniez la proportion de voitures, de camions qui roulent à vide.
Alors, effectivement, il y a de la mutualisation, heureusement. Oui, on disait que on en a parlé dans les ateliers, mais enfin, la proportion de vide, ça se promène entre 20 et 40% suivant la maille qu'on considère.
Entre 20 et 40% de camions qui
roulent. Et d'ailleurs, une des raisons, en fait, aussi de l'arrêt du lotissement par la SNCF, mais il y a des cheminots dans la salle, donc ils pourront s'inscrire en faux, c'est effectivement aussi que dans le lotissement, qui était un petit peu l'équivalent, il y avait énormément de wagons vides qui fallait déplacer sur le réseau. Non, la mutualisation, je crois qu'il ne faut pas la voir au niveau de la fonction transport. Elle va se réformer au niveau de la fonction... au niveau des chargeurs, au niveau de la distribution elle-même. Alors, il y a eu des exposés dans les ateliers qui étaient très intéressants, donc je vous invite à regarder les actes du congrès. Mais schématiquement, il me semble me souvenir que les chiffres étaient de l'ordre de 20 à 30% d'amélioration de l'efficacité de la logistique en mutualisant. Alors, cette mutualisation, elle va venir parce que des grands distributeurs, entre autres, vont favoriser cette mutualisation. Et comme toujours, à partir du moment où il y aura un mouvement vertueux qui va s'amorcer, d'autres acteurs qui aujourd'hui ne sont pas partie prenante de cette mutualisation vont y aller.
Donc, il y a un effet de leadership. Hein,
tout à fait. Et... C'est quelque chose qui est... Alors, effectivement, on ne parle pas de la mutualisation, le fait de mettre dans un camion, en fait, ça en fait partie, bien entendu, des marchandises qui correspondent à différents donneurs d'ordre. Là, on est plutôt dans une vision de la chaîne de distribution globale. Donc, c'est quelque chose qui commence, on est à son début, mais de la même manière que je signalais qu'il y avait eu des mouvements dans d'autres secteurs qui vont s'amorcer, je suis persuadé qu'il y aura plusieurs chaînes de mutualisation. On ne sera pas dans un... Enfin, me semble-t-il, le futur va être très diversifié. On aura peut-être une mutualisation de type bed and breakfast, c'est-à-dire où on utilisera des coffres de véhicules électriques qui sont vides. Les taxis auront des fonctions logistiques qu'ils n'ont pas toujours. Enfin, on va imaginer des services très différents.
On voit aujourd'hui dans les zones peu denses...
Exactement. Des tas de nouveaux services vont apparaître. Ça va se coupler avec des systèmes d'achat qui eux-mêmes vont évoluer énormément, on le voit. Donc tout ça, c'est quelque chose de très mobile, de très dynamique. Et c'est vrai que c'est très difficile au niveau des acteurs, au niveau de l'État, vous en parlerez peut-être, mais c'est très difficile au niveau de tous les acteurs, d'ailleurs, d'être sensibles aux signaux faibles, parce que par définition, ils sont plus difficiles à détecter.
Alors, difficulté de détecter, donc de repérer. Une demande de prise de parole, y en a-t-il encore d'autres, puisqu'on va arriver bientôt au terme de ce débat, et je vous demanderai peut-être déjà de penser aux paroles finales que vous souhaiteriez qu'on retienne de ce débat. C'est à vous.
C'est Mohamed Bakouche, société Ozadil Consulting. Ma question, c'est, vous avez évoqué
parlez plusieurs... bien dans le micro.
Vous avez évoqué plusieurs projets, mais vous n'avez pas évoqué le sujet de sécurisation des flux d'informations. Quelle est votre garantie par rapport à ces systèmes qui sont utilisés, éventuellement le téléphone portable ou d'autres? Et l'autre point important, en fait, l'utilisation de systèmes portables remplace aussi l'humain, il remplace des gens qui vont vendre des billets et d'autres. Est-ce que vous avez étudié la question sociale ou d'autres? Voilà.
Alors la question sociale, on l'a un petit peu évoquée, mais la sécurité des données. Oui, Thierry Sagnaz aussi.
Effectivement, la sécurisation des données personnelles est quelque chose de particulièrement sensible, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'ensemble des nouvelles technologies, et que ce soit au niveau des cartes bancaires, des téléphones portables, de notre connexion à Internet, etc., posent réellement aujourd'hui, en termes de liberté publique pour tout un chacun, la question des données personnelles et l'exploitation souvent de ces données par d'autres professionnels. Alors on n'est pas sur la liberté personnelle, on est sur autre chose, mais l'exploitation des données par d'autres professionnels à des fins purement marketing. Donc là, c'est une question sur laquelle là on travaille beaucoup. Je pense que les pouvoirs publics aussi au niveau européen et au niveau national travaillent beaucoup parce que c'est une question éminemment d'actualité.
Donc question renvoyée aussi aux pouvoirs publics pour sécuriser cela. Alors, Laurent Briand.
Il y a beaucoup de choses à dire et il me faudrait une heure pour en parler. Donc je vais faire très concis. D'abord, j'ai deux minutes sur les systèmes de vente. La plupart du temps, on s'appuie sur des systèmes de banque. Donc c'est pas nous qui faisons. Pour ce que j'en connais, en tout cas, c'est pas les transports publics qui s'occupent de cette sécurisation. C'est plutôt les banques, voire les opérateurs téléphoniques. Hein. Alors voilà. Ensuite,
là,
sur les données,
sur les données géolocalisation et autres,
sur le paiement. Bah, c'est ce que je vous disais, ça va être très difficile d'être concis. Il faudrait en parler une heure pour faire le tour de la question. Donc, sur le système de paiement, c'est la banque qui s'en occupe. Sur le système, les systèmes billettiques, la CNIL est très formelle et surveille de près tout ce qui se fait en la matière. On n'a pas le droit de conserver les données plus d'une journée, et ainsi de suite. Donc, il y a des réglementations très fortes. Et par contre...
Question subsidiaire. Est-ce que la réglementation va aussi vite que l'innovation technologique?
Non. Bien sûr que non. Enfin, on voit bien que la CNIL interdit certaines choses dans le périmètre français et qu'il suffit d'aller ailleurs pour avoir le droit de faire et qu'Internet n'a pas de frontières. Donc c'est compliqué. C'est un sujet
très
compliqué.
Il n'y a pas
que la question du paiement. Hein, ce n'est pas celle qui me paraissait essentielle lorsque je suis intervenu tout à l'heure. C'est le fait de rentrer son nom, son numéro de téléphone. Vous le faites avec votre téléphone. Demain, les compteurs dits communicants en matière d'énergie pourront savoir ce que vous faites. Donc tout ça fait qu'on peut connaître...
Pourquoi allez-vous de Libourne à Arcachon deux fois par semaine?
Non, mais c'est important, c'est un sujet essentiel. C'est-à-dire qu'on peut savoir quel est votre mode de vie, à partir de là, qu'est-ce que vous avez besoin de consommer, qu'est-ce que vous consommez, et pour d'autres, qu'est-ce que vous faites. C'est une question éminemment d'actualité en termes de liberté publique. C'est vraiment loin d'être anodin.
Et ça fait écho à ce que vous disiez, Rémi Bastien, sur mobilité égale liberté. Alors là, ça serait la première fois qu'il y aurait moins de liberté autour de la mobilité. Peut-être justement, parce qu'on...
Oui. Une phrase, je monopolise la parole, désolé, non, une phrase. On ne conserve pas de données privées sur un déplacement plus d'une journée. Donc, alors, on utilise ces données seulement pour de façon anonyme. Donc toutes les données personnelles sont effacées dans des systèmes...
Non, mais mon intervention ne portera pas sur votre cas concret. Elle porte de manière générale. Mais
de manière générale.
Mais ça participe au système, c'est ça. Les systèmes mis en place conduisent à ce risque potentiel qui est essentiel.
Et comme on l'a vu dans le débat, la mobilité rime avec liberté, et donc ça serait vraiment désastreux qu'il y ait un frein à la multiplicité des modes de déplacement. Oui, Rémi Bastien, quand on évoque 2020, et on arrive au terme du débat, c'est quelque chose sur lequel, dans votre monde industriel, on est déjà en train de construire, de préparer ce que sera le matériel, les services que vous développerez en 2020.
Mon voisin me dit heureusement, tout à fait. Alors bon, pour développer une voiture aujourd'hui, on met à peu près 3 ans. En revanche, bon, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses qui vont être dans le mouvement de continuité par rapport à ce qui a été fait avec des progrès, puis un certain nombre de percées qui vont être faites. Donc c'est finalement ces percées-là qu'il faut arriver à accompagner. Je crois que le maître mot là, en pensant à tout le débat qu'il y a eu, là, on voit bien que ça sera de plus en plus nécessaire d'avoir une coopération entre tous les acteurs. L'intermodalité peut pas se faire avec chaque acteur qui joue sa partie dans son coin. Le véhicule électrique nous ouvre finalement tout un champ qu'on découvre petit à petit. En termes d'énergie, nous participons avec nos collègues coréens, notre division coréenne, à une expérience de Smart Grid, donc sur l'île de Jeju. Bon, bah là aussi, on a des choses à apprendre. Donc, dans les 10 ans qui viennent, il y aura un certain nombre de choses qui vont être dans la grande continuité de ce qui a été fait, mais aussi des percées qui vont...
Des réseaux d'énergie et d'électricité.
Voilà, qui vont s'accélérer plus ou moins en fonction du marché. Mais je pense que la coopération entre tous les acteurs va vraiment être la clé des 10 ans qui viennent.
Jean-Bernard Kovarik, il y a des données, des éléments du débat qui reviennent, qui semblent un peu tracer, mettre des petits cailloux blancs sur le chemin vers 2020 en matière d'innovation sociale, technologique, industrielle.
Oui, moi j'ai voulu dire que on est dans une époque formidable parce que nous assistons à un véritable tournant dans le modèle de croissance. Et c'est tout ce qu'on appelle croissance verte ou économie verte. Je ne vais pas m'apesantir sur la couleur de cette croissance, mais je crois que de tous les débats qui ont eu lieu, il y a bien des grands changements très structurels qui ne concernent pas seulement le volet technologique, mais aussi et presque en premier lieu un volet social sur l'usage que l'on peut faire de ces technologies actuelles ou de rupture dans le cadre d'une mobilité qui soit toujours mieux assumée. J'ai été assez frappé par la possibilité d'intervention, d'émergence de l'économie de l'usage en comparaison avec l'économie traditionnelle basée sur la possession. Alors c'est quoi? C'est ce qu'on a dit sur l'autopartage, sur le covoiturage. C'est une relation nouvelle avec les objets un peu traditionnel de consommation ou d'usage de la mobilité. Et je vois dans cette économie de l'usage, dans ce partage des ressources, finalement, un double dividende. À la fois par cette utilisation plus efficiente, plus efficace des ressources naturelles, on revient au volet un peu contraint de la prise en compte de la finitude de nos ressources naturelles ou énergétiques, mais en même temps à de nouvelles opportunités de lien social entre des personnes à tous les âges de la vie et qui participeront de cette manière, à leur niveau, à un développement durable, à un développement authentique de toutes les personnes, qu'elle soit dans les villes ou qu'elle soit dans les zones peu denses ou dans les territoires durables, tout ça. Et je note qu'en matière de gouvernance, disons, il y a un accent très positif porté à cette hybridation entre l'initiative citoyenne et l'action publique. Alors plus précisément, par rapport aux échéances de 2020, c'est vrai que le temps presse. On a bien vu que, lors des tables rondes, dans la séance plénière d'hier, que l'obtention, disons, du facteur 4, pour simplifier, en 2050, c'est quand même pas facile. Et il est indispensable d'avoir une ou plusieurs innovations de rupture. Mais c'est maintenant qu'on les prépare. Il faut aujourd'hui programmer la recherche, le développement, les démonstrateurs pour permettre, en 2020, de prendre les décisions qui s'imposent et qui s'engageront vers un déploiement qui produira tous ses effets en 2050.
Merci Jean-Bernard Covary. Merci à tous nos intervenants. Alors nous sommes maintenant invités d'abord sous les arcades pour le déjeuner et puis après invités à poursuivre ces débats, autour de l'innovation, qu'elle soit sociale, industrielle, technologique, au service de la mobilité. Merci à tous.